Alors, d'abord, je dois vous avouer que je suis très émue d'être ici avec vous aujourd'hui parce que c'est la première fois que je vais partager une réflexion très intime que j'ai eue à la suite de ma soutenance de thèse qui a eu lieu donc il y a un an, puisque pour la préparation de ma thèse de doctorat et aussi parce que je faisais partie de cette compagnie en tant que comédienne, ce que je n'avoue jamais en France parce que c'est pas bien, mais ici je peux le dire. C'est que j'ai accumulé, pour parler de la vie de cette compagnie et pour distancier, un ensemble considérable de documents d'archives sur la vie, presque minute par minute, heure par heure, de ce qui se passait dans cette compagnie, sur laquelle je vais revenir un petit peu après. Et dans cette archive, il y a des documents de plein de natures différentes. Il y a des textes que j'ai retranscrits sur le vif, donc en dactylo, des photos, des milliers de photos. Des enregistrements audio et des enregistrements vidéo qui ont été faits avec tout ce qui tombait sous ma main, un smartphone, un appareil photo, une caméra. Donc il n'y a rien qui a été produit de manière matérielle ou technique pour un produit artistique. Et quand je vais parler après quand je me pose la question aujourd'hui de me dire qu'est-ce que je vais faire par exemple de cette archive vidéo, eh bien, se pose la question aussi de la qualité technique des images. Et ça pose un sacré problème, puisque ça n'a pas été filmé avec le matériel adéquat pour faire un documentaire. C'était simplement de la documentation. Mais il me semble aussi qu'il est intéressant, à un certain moment, de se poser la question de ce qu'on fait, de tout ce qu'on accumule, surtout quand il s'agit d'instants peut-être aussi précieux que ce qu'on peut avoir quand on enregistre comme ça la vie d'une compagnie. Donc évidemment, quand j'ai vu l'idée du symposium, en fait, l'annonce, je me suis dit voilà une occasion de partager peut-être ce projet que j'ai de sortir l'archive vidéo et d'en faire quelque chose. Et pas n'importe quelle archive vidéo, mais un travail qui a été fait avec des acteurs que nous emmenions en résidence de création tous les ans entre 2006 et 2013 en Cappadoce, donc en Turquie. Et c'est de cette expérience-là que je voudrais vous parler aujourd'hui. J'aimerais par exemple parler à travers ce travail, en tout cas mon questionnement, ma réflexion pour l'instant s'est arrêtée là, des traces du processus créatif à travers l'espace-temps singulier et privilégié de l'expérience que nous avons offerte à ces artistes en résidence en Cappadoce. Par exemple, j'aimerais parler des images vidéo, de la trace qu'on peut voir et qui est laissée en eux et sur eux par un lieu. Par exemple, la vallée cachée, entre guillemets, Saklıvadiye en turc, qui était en même temps un lieu, c'est-à-dire une grande vallée encaissée qui commençait par une église troglodytique du 5e siècle. Et puis un verger incroyable, et puis se prolongeait à travers la roche et devenait cette espèce de théâtre encaissé dominé par une grotte dans laquelle étaient organisés des spectacles, des concerts, et tout au bout de la vallée, un espace où les Français particulièrement adoraient planter leurs tentes pour observer la Voie lactée. C'était aussi une vallée qui était décorée par tout un tas d'objets très très étranges, puisqu'elle était habitée par un homme qui s'appelait Mehmet Batay, qui est mort. Et quand il est mort, et ben la vallée, finalement, a perdu son identité vivante et elle est redevenue un espace naturel qui n'avait plus forcément de lien avec l'art. C'est pour la petite histoire. Donc, techniquement, la résidence que nous organisions durait entre 4 à 8 semaines durant les années, selon les années, dans un à plusieurs villages de Cappadoce, qui est en Anatolie centrale. Donc si la Turquie était un carré, un rectangle, la Cappadoce se situerait à peu près ici. Ce sont des hauts plateaux, à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et donc ça s'est déroulé dans les villages d'Ortaissar, de Göreme, de Mustafa Pacha, qui est également connu sous le nom de Sinassos, puisque c'est un ancien village grec. Les participants étaient hébergés chez des habitants avec lesquels ils partageaient des conditions de vie qui étaient parfois sommaires, parfois pas d'eau chaude, souvent pas d'électricité, souvent l'eau coupée, etc. Ils travaillaient donc dans des espaces historiques comme le village fantôme troglodytique d'Ortaissar en 2010, le Medrese qui est une ancienne école coranique désaffectée de Mustafa Pacha en 2006, ou encore cette fameuse vallée dont je vous ai parlé tous les ans entre 2007 et 2013. Leur emploi du temps était principalement consacré à un travail personnel d'élaboration d'une œuvre individuelle qui avait été commencée à Paris et qui se prolongeait pour se terminer finalement en Cappadoce la plupart du temps. Et il était ponctué au fil des ans par des rencontres avec des personnalités importantes de la vie culturelle locale et aussi de la vie culturelle nationale, des maîtres de confrérie à Lévy, Mev Lévy, des étudiants et des professeurs du département d'études théâtrales de l'université d'Ankara avec laquelle un partenariat avait été mis en place dès la première année. Au fond, je vais vous parler beaucoup, puis après je vais vous montrer peut-être un des essais brouillons de vidéos que j'ai fait. Mais au fond, ce qui est important dans cette expérience, ce n'est pas forcément ce voyage en lui-même et pour lui-même, même si c'est répété avec des groupes différents d'année en année, même si c'est très intéressant et exotique, mais bien plutôt dans le fait qu'elle me semble un point de départ pertinent pour questionner à travers l'expérience de ce que le chercheur français Rabanel nomme le vivant artistique et sa mise en récit, les nuances fondamentales entre les différents termes qui servent à désigner les phénomènes d'échange et de transfert dans les pratiques artistiques et culturelles, ou les phénomènes de ce qu'Édouard Glissant appelait la créolisation. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement d'aller en Turquie, mais de s'imprégner de la culture turque et finalement de faire tomber les frontières mentales, ce qui était beaucoup plus difficile et bien ambitieux. Je passe un peu pour gagner du temps. Et d'ailleurs, je vais revenir sur le nom de la compagnie, maintenant que je vous ai dit tout ça, puisque ça s'appelle Ayn Seyir. Ce sont deux mots qui sont accolés l'un à l'autre. Ayn vient de l'arabe et désigne à la fois le même, ce qui est même, ce qui est identique, et la pupille de l'œil. Et Seyir veut dire deux choses, la contemplation et la navigation. C'est déjà un voyage, en fait. La synthèse des deux pourrait être comprise comme peut-être la contemplation du même, du semblable, ou la contemplation de la pupille de l'autre, ou la navigation dans le même, dans le semblable, ou la navigation à travers la pupille de l'œil de l'autre. Ce qui me fait penser évidemment à la formule de Socrate, selon laquelle on se connaît soi-même lorsqu'on est capable de contempler son propre reflet dans la pupille de l'autre, jusqu'à presque se confondre dans ses yeux. Vous arrivez à me suivre? Je saute un peu du coq à l'âne, excusez-moi. C'est que j'ai beaucoup revu mon intervention après vous avoir entendu. La formation dans laquelle prenait place cette résidence s'appelait Autonomie de l'acteur. Autonomie de l'acteur était, pour information technique, un module de formation professionnelle continue qui était financé par l'assurance formation des activités du spectacle en France, donc l'AFDAS, et la Commission européenne. Et avait deux particularités, en fait. La première, c'est que ça se déroulait sur une période de 5 à 7 mois, ce qui est inhabituellement long quand on parle d'artistes du spectacle vivant qui ont l'habitude de travailler au maximum 2 mois ensemble pour une création. La deuxième, c'est évidemment cette résidence en Turquie. L'objectif principal général était, ainsi que c'était annoncé dans les documents de communication et les programmes pédagogiques, de permettre aux stagiaires de retrouver une autonomie créatrice dans leur pratique artistique professionnelle. Et pour cela, le travail se déployait sur cette géographie double, donc entre Paris et la Cappadoce, à travers ce qu'on pourrait qualifier d'une approche entre guillemets biculturelle, parce qu'elle était à la fois française, à la fois turque. C'est-à-dire qu'il y avait un ensemble de méthodes et de pratiques, d'éléments de réflexion qui étaient issus à la fois d'une large palette de traditions du monde turc et de l'héritage laissé par les pratiques théâtrales pluriculturelles en Europe, notamment à travers l'influence des travaux de Peter Brook et de Jerzy Kotowski, et notamment de ses élèves Thomas Richards et Mario Biasini, avec lesquels la compagnie avait collaboré pendant plusieurs années. La résidence en Turquie était donc le point culminant, vous l'aurez compris, du processus. Et on pourrait considérer que cette résidence était articulée en deux étapes majeures. Pour ces artistes déplacés en Turquie, je ne parle pas de moi, puisque ce cadre les confrontait à leur propre porosité ou imperméabilité face à l'autre. Tout d'abord, il y avait un choc qui les atteignait presque dans leur chair à des degrés plus ou moins forts, et qui pouvait apparaître de manière plutôt positive ou même plutôt totalement négative. Et ce phénomène semblait pousser les participants dans leur retranchement, les contraindre à constater ce qui les séparait artistiquement et culturellement de leurs hôtes, même s'ils étaient très préparés par ailleurs. En second lieu, la stupéfaction provoquée par ce constat de la différence qui semblait faire place à un désir de résoudre l'altérité en effaçant le plus possible les marques de ce qu'ils finissaient par considérer comme leur propre étrangeté. C'est ainsi que, parallèlement aux activités purement artistiques qu'ils menaient dans la journée, les participants à la résidence de formation commençaient à chercher petit à petit à se mêler à la vie de village, à gagner une sorte de familiarité avec les habitants, à devenir dès lors, parfois même la tentative allant jusqu'à vouloir se confondre cette vie quotidienne du village avec leur propre démarche artistique. Finalement, dans cette pratique à visée pédagogique, ce qui paraît interroger le plus, à mon sens, porte précisément sur ce point de rupture culturelle qui est relativement intime et qui semble faire passer les participants que j'ai observés d'un positionnement culturel qui était ferme et définitif, disant « je suis un artiste travaillant en France et je vais aller en Turquie, que je connais parce que j'ai étudié 2 mois avant de venir ». À une sorte d'entre-deux où ils aspiraient à la créolisation ou à l'hybridation et qu'on pourrait considérer en un sens comme un effacement de la frontière mentale pour ne plus chercher à voir que l'humain, que le vivant entre guillemets artistique. Et c'est précisément cette abolition du cadre, ou plutôt de sa transformation par la déformation de ce qu'il délimite, qui constituait donc l'objectif le plus intéressant à mes yeux de la formation. Et juste avant de passer à ce que je voulais vous montrer en vidéo, je voudrais vous lire un petit extrait de notes que j'ai prises sur une discussion qu'ils ont eue, enfin certains d'entre eux, en 2013, le dernier groupe, donc, au retour à Paris. Donc, je commence à citer. Martin, un acteur, dit « En Cappadoce, nous avons rencontré des gens magnifiques. On était vraiment hors de notre milieu. » C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais revivre de la même manière parce qu'on était résident. On habitait même dans une maison au milieu du village. Ali dit « En t'écoutant, cette idée étrange me vient. Notre métier devrait pouvoir se développer en harmonie totale avec le contexte dans lequel nous vivons. Car en Turquie, là où vous avez travaillé par exemple, les gens ne connaissent pas le théâtre. Mais quand je t'entends, entre votre maison dans le village, votre lieu de travail et les gens que vous avez croisés, tout a semblé être dans une unité inséparable, comme une unité absolue. Il n'y a rien qui a dérangé l'harmonie entre votre vie et votre métier. Pourtant, à Paris, entre le café et cette salle de répétition, ce sont 2 mondes différents, comme si la vie était divisée en des corridors différents et morcelés. » Martin, « Oui, c'est juste. » Ali, « On peut dire aussi que notre métier a perdu tout rapport avec la vie. Les gens vivent sans vie avec leur métier. » J'ai l'impression qu'en Turquie, on trouve la vitalité de ce que nous faisons dans la vie elle-même. En Cappadoce, c'est comme s'il y avait une vie commune, unitaire, entre les choses et entre les gens. Je passe un petit peu. Marie dit « On dit et redit très souvent que le théâtre n'est pas séparé de la vie et qu'il est dans la vie. En fait, entre ces 2 mots, parfois, je ne sais pas tellement lequel utiliser parce que ça se rejoint. Quand on voyait les paysans danser dans les mariages la semaine dernière, j'aurais tout aussi bien pu dire que c'était des artistes si le contexte avait été différent. Mais en fait, ce n'est ni totalement de l'ordre de la vie, ni totalement de l'ordre du théâtre au sens où on l'entend ici, parce que dans ce cas, art et vie sont indissociables. C'est ce qu'on disait sur la compartimentalisation des choses. Les éléments de théâtralité sont là aussi, c'est une question d'observation, de se dire que c'est là, mais qu'on ne le voit pas, parce que ce n'est pas particulièrement pointé du doigt. Et qu'on n'a peut-être pas aussi tous les outils qu'il faudrait pour le reconnaître et le nommer. Ali, il y a 2 possibilités. Soit inventer de nouveaux mots, soit charger différemment les mots existants. Tu peux parler autant que tu veux de la neige à quelqu'un qui a toujours vécu sous les tropiques. La personne ne pourra comprendre réellement qu'en voyant la neige elle-même et en faisant l'expérience immédiate. C'est un peu notre cas par rapport au monde et par rapport au théâtre. Donc, j'ai fini de citer. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble explicite dans ces propos, c'est que ce qu'ils décrivent passe non pas par le besoin de chanter, de danser ou de marcher comme des Turcs, alors qu'ils ont beaucoup appris et beaucoup travaillé, mais par le fait de se perdre dans un entre-deux, de passer de l'autre côté, pour ne plus regarder et vivre le monde avec les mêmes yeux, la même voix ou le même corps. En somme, il semble que cet entre-deux soit en quelque sorte l'un des garants de l'éclosion de la poésie individuelle de l'artiste. C'est donc ici une sorte d'hybridation culturelle érigée en démarche esthétique, bien plus que pédagogique. qui est le germe de la démarche poétique en l'individu artiste, parce qu'alors ce dernier ne tend plus à n'être que le fruit et le représentant d'une culture donnée, mais un être humain en constant devenir, inscrivant celui-ci dans son œuvre elle-même. Alors, puisqu'il me reste 5 minutes et que ma vidéo dure 5 minutes, je vais vous la montrer. Oui, et j'aimerais en même temps vous poser une question. La question que je me pose, moi, après tout ça, c'est de savoir, quand on parle autant de vivant et de vie, quel peut être le statut de la vidéo par rapport à tout ça. Alors, je commence, excusez la qualité technique, c'était pas fait pour ça au départ. Voilà, c'est fini.